Tiens.
Oui.
Qui.
Tiens.
Nous.
Tiens.
Nous.
Partient.
Oui.
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 Nous.
Appartient. Nous.
Oui.
L'eau.
Appartient.
Oui.
Nous.
C'est qui nous.
C'est.
L'eau.
Appartient.
C'est qui nous.
C'est ce huis clos
qui
nous appartient.
C'est huis clos qui nous appartient.
Rêve d'auditeur, travail d'écrivain. Travail d'auditeur, rêve d'écrivain.
Voilà, je me trouve au centre devant les deux micros. Par terre, du tapis et du plancher.
Composition d'archives radiophoniques par Thierry Genico.
50 cm. Voilà, je me trouve au bout de la pièce. Une pièce qui fait à peu près 5 mètres de long sur 3-4 mètres de large. Je parle assez fort. Je vais maintenant me rapprocher du micro. Je parle de façon normale. Il y a un beau lit à côté de moi. Voilà. Je me rapproche. Je vais maintenant marcher sur le plancher. Je suis près de la fenêtre. Je frappe à la fenêtre. Voilà.
Vite, fais-le un peu sans parler.
Chers amis, belles amies ou ennemis, levons nos verres à ceux qui s'en vont, tendons nos verres à ceux qui viendront, vidons nos verres à ceux du présent et saluons la vie des êtres et des choses, la vie impérissable, la vie infinie. Chers masques et amis, un dernier mot pour Monsieur Masque, Max, bourgmestre maturnel de notre grand Bruxelles du présent, de notre magnifique Bruxelles du passé, du Bruxelles joie de mes parents, mon père est né chez vous en 1835. Je revois mes amis de 1880, l'époque ardente des luttes pour l'art. Ils sont morts, les amis de joie et d'ivresse, tous purs bruxellois et premiers défenseurs. Edmond Picard, Mauss, Waller, de Molder, Verhaerne, Agy Wauters, Le Monnier, Écoute, de Wolfville. Mes fiches de consolation, nous avons Sander Pierron, le bon ami de Neptune, l'explorateur canalisé des plates-côtes de Molenbeek, des bas-fonds d'Ixelles, des rives de Malbec, d'Etterbeek et de Marolebeek. Et maintenant, je veux songer à Manekepis, le plus ancien bourgeois bruxellois, le roi de vos fêtes, l'animateur intarissable des esprits brabançons, l'arroseur acide, caustique, effervescent. Mesdames, messieurs, masques, ministres et bourgmestres, critiques sévères et autres, je vous adresse une prière. Je vous demande pour Manekepis un costume de peintre.
Chapitre 39. L'atelier de création sonore et radiophonique.
Thierry Genico est le père fondateur de l'atelier de création sonore et radiophonique.
Mais c'est une longue histoire qui remonte maintenant à plus de 15 ans. Je me souviens que je discutais avec un homme de théâtre qui s'appelait Alain Populaire à l'époque quand il faisait du théâtre et on avait pensé à un titre, c'était pas une forme d'atelier, mais qui était qui était une façon de créer en dehors des cadres où il était plus possible de créer. Il avait trouvé ce titre qui s'appelait « Canal de dérivation ». Et je trouve ça un beau titre, on pourrait le réutiliser. Eh bien, ça indique bien les choses, quoi. Canal de dérivation, canal, on travaille avec des canaux, et puis quand c'est bloqué d'un côté, bien, on dérive de l'autre. Et je pense que l'atelier a été, à l'instar de ce qui s'est fait dans l'audiovisuel, un espace qui était nécessaire devant une réponse... devant un éparpillement, d'un côté, il n'y avait pas de centralisation de ce qu'on pouvait entendre en matière de création, ou une impossibilité de créer, d'autre part, sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent.
Que l'art mange !
L'atelier, donc... je n'ai pas fait l'histoire de la naissance de l'atelier. Je sais que cet atelier est porté par des réflexions, réunions. Frédéric Jung est très présent. Richard Kalisch arrive plus tard. Il y a un modèle. Ce sont les ateliers audiovisuels.
Les ateliers audiovisuels,
ce sont, il y en a deux en communauté française principalement, qui est le CBA, Centre audiovisuel bruxellois, Centre bruxellois de l'audiovisuel, et le WIP Wallonie Image Production, situé à Liège, qui sont des lieux de production où viennent des réalisateurs à demander une aide, une coproduction, des projets, pas des projets, mais qui sont là pour que ces projets soient soutenus par ces ateliers et qui font en sorte que des films soient coproduits avec des acteurs du terrain et qui puissent être diffusés à la télévision et diffusés à l'étranger. Mais si on réfléchit tout ça, est-ce que c'est une question que je me pose? Est-ce que toutes ces naissances d'institutions, ateliers radio, ateliers audiovisuels, ne sont pas des créations destinées à combler un vide institutionnel qui avant était porté par le monopole de la radio-télévision? C'est une question que je me pose. Et que, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple que la radio-télévision, en l'occurrence la radio, c'est une question qu'on se pose, aurait pu donner un pôle de... comme c'était avant, qui aurait pu mettre sur pied... poursuivre un pôle de recherche qui pouvait acquérir ce qui se faisait en matière de création partout en communauté. Mais les choses sont celles-là. Il y a eu naissance de radio locale, il y a eu naissance de ce qu'on appelait le radio libre. Donc le paysage était divers et divers. Et est-ce qu'aujourd'hui, conviendrait-il pas de le rassembler sous le terme de ce que j'appellerais création, c'est-à-dire écriture, véritable écriture de la forme et du fond en matière d'imaginaire sonore? Est-ce qu'il ne faut pas constituer un musée, je mets des guillemets, musée d'art contemporain de la radio? Je dirais art contemporain parce que quand je mets création, on est dans l'ordre de l'art, pour que la communauté puisse entendre ce qui se fait de mieux, de plus fertile, et aussi puisse être diffusé dans le monde. Ça c'est une question que je me pose de plus en plus, parce que il n'est pas juste que des créateurs soient dans des espaces où on ne peut pas les entendre de façon universelle, c'est-à-dire à travers la communauté française, alors que l'argent est de l'argent public. Donc moi je trouve qu'il faudrait rassembler, et là je parle au futur, donc je ne parle pas de ce qui s'est passé parce que je n'en ai plus la mémoire, mais je parle au futur de ce que pourrait être le rôle de l'atelier, c'est de ce rassemblement d'œuvres. Et je trouve qu'elles sont multiples. Hein. Il n'y a pas que des œuvres de gens de radio de la communauté, mais il y a aussi tout le passé. Il y a des choses remarquables qui se sont faites, et ce passé n'est pas diffusé. Il y a une interrogation à faire sur les supports d'avenir, comment penser l'avenir de la diffusion, et aussi ce qui se fait de mieux et le plus probant à l'étranger en matière de création, qui n'est pas entendu.
C'est finalement le 30 janvier 1996 que l'atelier est mis sur les fonts baptismaux par une assemblée très représentative du monde des auteurs-créateurs, des comédiens et des opérateurs radio, beaucoup de la RTBF, mais aussi quelques membres de Radio Campus et Radio Panique. Il y a 22 candidats pour devenir administrateur, alors qu'il y a 9 places à pourvoir.
Parmi les élus, Marcel Aufler, le permanent de Radio Panique.
Dans ma présentation, je déclare que j'appartiens au monde des radios associatives et que ce qui m'intéresse avant tout dans l'atelier, c'est le projet de rassemblement transversal des forces de la création radiophonique. Transversal au niveau des spécialisations professionnelles, mais aussi au niveau des mondes institutionnels clos. Je termine en affirmant que je suis contre l'utilisation de l'atelier par la RTBF comme un alibi pour ne pas remplir sa mission de création ou comme une occasion de la remplir avec des moyens autres que sa dotation.
Sous l'impulsion principalement de Richard Kalisch, l'atelier va rapidement s'affirmer, d'une part comme organisateur d'événements publics, d'autre part comme agence de production, par des appels d'offres et des commandes. Soutenu par les sociétés d'auteurs SACD et SCAM, l'atelier aura vite la cote chez les fonctionnaires du ministère de l'Audiovisuel et les membres de la commission du Fonds d'aide. Plus que les radios associatives, l'atelier est perçu comme la vitrine de la création radiophonique en communauté française. La première grande manifestation de l'atelier est l'organisation d'un festival Année Zéro au Botanique en janvier 1997. Pour son financement, l'atelier se sait soutenu par le ministre de l'Audiovisuel et donc le Fonds d'aide. Il y a coproduction avec la RTBF qui, cependant, ne diffuse pas en direct le festival. Une série de 10 courts-métrages commandés à des écrivains et artistes sur le centenaire de la radio sont subventionnés par le Fonds d'aide.
Extrait de « Joyeux anniversaire », Laila Naboulzi, 1997.
Bon, ils sont venus, ils m'ont dit « Aujourd'hui, tu as 100 ans, alors pour ton anniversaire, tu as 10 minutes pour dire ce que tu veux. » Mais j'ai rien préparé. Et puis, des choses, il y en a tellement. C'est à prendre ou à laisser. C'est ma copine la télé qui m'a poussée. Elle m'a dit « Profites-en, c'est pas tous les jours, à ta place si tu savais. » Alors voilà, aujourd'hui, je demande aux ménagères de jeter le torchon dans le seau, de s'asseoir sur une chaise dans la cuisine et de fermer les yeux. Je demande à l'automobiliste de se garer sur la bande d'urgence, d'arrêter le moteur et de fermer les yeux. Je demande aux dormeurs d'attendre encore un peu avant de baver d'abandon sur l'oreiller. Je demande aux vieillards de demander aux chiens de cesser d'aboyer. Je demande au vent de retarder la tempête prévue, et si elle est en cours, d'accorder une trêve. Je demande aux zappeurs de calmer son impatience. Je demande aux cloches de passer un peu l'heure et aux muezzines de débrancher son haut-parleur. Je demande un peu d'inactivité.
T'as 20 ans, t'as pas d'argent, t'as besoin d'une moto pour épater tes amis. T'inquiète, chez Gros Pourri, tu rembourses quand tu peux et si tu peux pas, t'en fais pas, tes vieux le feront pour toi.
Ah oui, ils ont aussi ajouté « Faudra que tu laisses passer les plages de publicité, c'est eux qui paient, alors il faut se taire. »
Bonjour les petits-enfants, je suis la fée de Noël, la plus jolie des poupées. J'existe en deux modèles,
avec un zizi pour les petits garçons et une petite tirette pour les filles. En plus, pour tout le monde, je rote, je pète et je chie. Viens me voir chez ton marchand de jouets. Et si ta mère me trouve vulgaire, demande à ton grand frère de lui piquer des thunes dans son porte-monnaie. Tu vas voir la tête qu'elle va faire. Ça va être super.
Pendant la page de publicité, ils sont venus me trouver. Bon, d'accord, c'est ton anniversaire, mais faudrait pas exagérer. Ils ont dit que je pouvais continuer, mais que je devais me dépêcher et ne plus parler d'argent parce que ça n'intéresse personne. Ah bon, j'ai dit, je croyais. Alors ils m'ont fait promettre de parler de quelque chose de plus gai. Ben c'est gai l'argent quand on en a, j'ai dit. Oui, mais je devrais savoir qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui n'en ont pas. Ah, ceux-là! C'est vrai qu'à ceux-là, vaut mieux pas leur parler. Des fois qu'ils connaîtraient la vérité et qu'ils se mettraient à avoir des idées, alors que tout compte fait, tout se passe assez bien, puisque ceux qui ne savent rien, ils ne peuvent pas s'énerver. C'est vrai, quand on ne sait pas, on ne se fâche pas. C'est ainsi que je fais mon métier qui ne ressemble en rien à ce que j'en rêvais. Je suis désormais chargée de faire passer l'idée qu'il n'y en a qu'une, que c'est la bonne, et que l'étau qui se referme est pour le bien des hommes. Au revoir, à dans 100 ans.
Et n'oubliez pas notre maxime du mois avec les magasins Balèze.
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent qu'il ne faut pas le dépenser.
Cette pensée vous était offerte par les magasins Balèze.
André Salgado, créateur radio.
Et
qu'est-ce que tu penses du concept de faire un festival et de ce que tu y as vu
Eh bien, un festival de création sonore, c'est possible. Un festival de création radiophonique, une fois que ça passe pas à la radio, évidemment, c'est déjà plus ambigu de représenter quelque chose comme ça d'une manière qui n'est pas prévue au départ et qui n'est pas contenue dans l'énoncé. Un festival de cinéma, ça reste un festival de cinéma, parce que le cinéma, c'est projeter un film dans une salle obscure. Mais un festival de radio qui se passe pas à la radio, c'est vrai que c'est très étrange. Ça devrait se passer sur les ondes, ça devrait se passer sur les ondes de plusieurs radios en même temps, à travers le monde, ça devrait se passer sur Internet à la rigueur. Quoique la radio sur Internet, je ne sois pas pour à 100% dans l'état actuel des choses. Mais pourquoi pas? Je vais te dire, c'est pas parce que ça m'ennuie moi que ça ne doit pas exister, et c'est aussi très bien de sortir un objet de son contexte. Il y a un risque un peu de tomber dans le piège du musée, quoi. D'exposer des choses mortes qui ne sont pas en situation. Mais il y a aussi c'est aussi une occasion pour entendre des choses qu'on n'a pas entendues et qu'on ne peut pas entendre à la radio. À partir du moment justement où on ne peut pas entendre des créations à la radio parce qu'il n'y a pas de créneau libre ou que ça n'intéresse pas les radios de grande diffusion, etc. Ce qui est fort dommage. Je crois que ça aiderait beaucoup de gens, ne serait-ce que dans l'apprentissage de la langue, par exemple, des choses comme ça, mais bon, on dérive. À partir du moment où on ne peut pas faire ça à la radio, pourquoi pas le faire ailleurs, effectivement? Le problème, évidemment, c'est le public qui vient, c'est qui on touche. Bon, ben, c'est toujours les mêmes pelés, c'est les gens qui font de la radio, qui font de la création et qui viennent voir ce que font leurs copains. C'est aussi très bien, comme ça ils apprennent, et ils voient les gens du métier et tout ça, mais c'est un peu comme une fête entre amis, quoi. On vient, on apporte à manger, et chacun mange la salade de l'autre, et tout le monde est content en sortant. C'est très bien, mais c'est dommage que ça ne touche pas plus de monde.
Et que personne ne l'oublie.
Il n'y a plus une radio à écouter. Il y a des radios à entendre, c'est tout.
Oui, mais bon, alors ça veut dire ceci, c'est que il n'y a plus de place pour autre chose que, je vais être méchant, que le crin-crin, et puis c'est tout, quoi. Une espèce de soûlerie permanente.